Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International pour la première émission du mois d'avril, puisqu'on est arrivé au mois d'avril. Et rien à voir avec les droits humains, mais ça me fait penser au mois d'avril. Là en ce moment, à cause de la météo, on peut appliquer le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil parce qu'il fait pas chaud. Voilà. Mais revenons à deux choses qui nous rassemblent autour du micro, c'est-à-dire la défense et la promotion des droits humains. Et pour animer l'émission avec nous, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Juliane.
Bonsoir tout le monde.
Voilà. Ce soir, on va passer une partie importante de l'émission, pas toute l'émission, mais une partie importante de l'émission, à la parution du rapport annuel d'Amnesty International.
Ça aussi, ça vient avec le printemps.
C'est ça, tous exactement. On pourrait compléter le proverbe, tiens, ne te découvre pas d'un fil,
mais regarde le rapport d'Internet.
Voilà, mais profite du Frima pour lire le rapport d'Amnesty, je ne sais pas si c'est un bon proverbe.
Donc, puis on fera la météo aussi,
Oui, c'est ça. Bah, la météo des droits humains, on le fait à chaque émission, en fait.
Hein.
Le rapport annuel d'Amnesty, le rapport 2020-2021 qui vient de paraître, donc qui fait l'état des droits humains dans environ 150 pays dans le monde, donc c'est très complet, etc. Des enquêtes qui sont menées essentiellement par les chercheurs d'Amnesty. Et donc ce rapport vient de paraître, il est téléchargeable sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Vous tapez rapport annuel et vous tombez dessus, vous voyez le rapport 2021. Il va paraître aussi sous la forme de bouquin, mais si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours l'acheter, mais la version bouquin sera un petit peu limitée pour des questions de coût, limitée en quantité, je veux dire, pour des questions de coût, voilà. Donc pour vous présenter ce rapport, on a pensé que un des moyens les plus parlants était de vous passer la voix de la présidente d'Amnesty International France, qui s'appelle Cécile Coudrioux, et qui a fait une présentation sur le site d'Amnesty. Alors c'est une vidéo, mais on vous a récupéré le son, et en fait on s'est rendu compte qu'en écoutant le son, c'était tout à fait compréhensible, même si on ne voyait pas les images, voilà. Donc je vous la passe tout de suite, et on se retrouve juste après.
Le rapport annuel d'Amnesty International, c'est une photographie du monde sous l'angle des droits humains. Nous analysons 149 pays sur la base de nos propres recherches impartiales et indépendantes. Par ailleurs, ce n'est pas seulement un outil de référence, mais aussi un outil de plaidoyer, car pour chaque région du monde, nous avons aussi proposé des recommandations pour améliorer le respect des droits humains. Le rapport annuel pour l'année 2020-2021 va être bien évidemment marqué par la pandémie de Covid-19 et son impact terrible sur les droits humains. Donc nous allons bien sûr montrer à quel point ça a accentué les inégalités, ça a affecté encore plus les populations les plus vulnérables. Et puis il y a également un point autour de l'instrumentalisation de cette pandémie par des dirigeants extrêmement cyniques qui ont voulu asseoir leur pouvoir. Et puis enfin, il y a un manque de coopération internationale, des États qui ont failli dans leur devoir de protection. La pandémie a eu un impact direct sur les plus vulnérables pour diverses raisons. Je pense tout d'abord aux femmes, dont les droits ont trop souvent été bafoués, mais aussi les minorités, LGBTI ou minorités religieuses. Ça a souvent été des violences domestiques qui se sont accrues à travers la planète en raison du confinement et de cette pandémie. Évidemment, il y a également la question migratoire. Donc les personnes réfugiées ou migrantes ont été non seulement trop peu protégées, parqués dans des camps ou parfois même victimes de violences. Et le droit d'asile lui-même n'a pas été suffisamment respectée. Bien sûr, il faut aussi penser aux personnes en première ligne. Les États se sont révélés incapables de protéger suffisamment les soignants à travers le monde. 17 000 d'entre eux ont perdu la vie. Le système médical, le système de santé était depuis bien longtemps négligé dans bien des États dans le monde. Et donc forcément, la pandémie a eu un impact terrible en direct sur ces personnes qui sont en première ligne. De manière générale, les États, à l'échelle nationale, n'ont pas pu protéger suffisamment leur population. C'est pourquoi les personnes qui sont déjà dans la précarité ou qui sont déjà parfois dans une extrême pauvreté ont été touchées de plein fouet par cette pandémie. Certains dirigeants ont profité de manière extrêmement cynique et éhontée de la pandémie pour asseoir un peu plus leur pouvoir et rogner davantage sur les libertés fondamentales. Au lieu de laisser circuler une information pourtant vitale pour lutter contre la pandémie, des pays tels que la Chine, mais aussi la Russie ou encore l'Égypte ont littéralement persécuté toute personne qui voulait faire passer des messages pour mieux protéger la population de cette pandémie. La journaliste qui s'appelle Zhang Zhan, une journaliste chinoise, a été non seulement arrêtée, mais torturée et condamnée à 4 ans de prison simplement pour avoir fait des reportages sur Wuhan. En Russie, ce sont aussi des personnels de santé qui ont été empêchés d'acheminer du matériel, mais aussi de communiquer sur cette pandémie. En Égypte et dans bien d'autres pays, ce sont des lois qui ont été passées pour éviter que ce qu'ils appellent des fausses rumeurs puissent circuler sur la pandémie. Le droit de manifester a été totalement bafoué et réprimé. Dans bien des pays, notamment au Nigeria ou au Brésil, où près de 4000 personnes ont perdu la vie, il y a également des lois qui ont été excessive, très large, comme à Hong Kong, pour empêcher toute manifestation afin de mettre un terme à ce mouvement pro-démocratie. Donc partout dans le monde, les manifestations ont été sauvagement réprimées. L'exemple extrême va être celui de Duterte aux Philippines, qui a littéralement dit à ses forces de police « tirer pour tuer » pendant les manifestations. Mais par ailleurs, il y a aussi des gouvernements qui, pandémie ou pas de toute façon, empêchent toute liberté d'expression. Les États, tout d'abord à l'échelle nationale, n'ont pas fait suffisamment pour protéger leur propre population. Le droit à la vie, le droit à la santé n'a donc pas été protégé suffisamment. Mais ce qui est très préoccupant également, c'est qu'il y a eu une incapacité à mettre en place une réelle coopération internationale, pourtant tellement nécessaire lorsqu'une pandémie mondiale touche les plus vulnérables, mais aussi toute la population. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dénoncer une forme d'égoïsme des États les plus riches qui n'ont pas suffisamment partagé non seulement les vaccins, alors qu'ils devraient être accessibles à tous et de manière gratuite, mais également dans une protection sociale du fait qu'il y a un impact économique terrible. Donc, ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait davantage de solidarité et qu'on puisse mettre en place un fonds mondial de protection sociale. Car c'est plus de la moitié de la population mondiale qui n'a même pas un filet de sécurité suffisant pour pouvoir résister en cas de crise telle que celle qui nous a touchés. Pourquoi ? Parce que dans bien des pays, la majorité des gens travaillent dans un secteur informel. 71% n'ont même pas de protection sociale la plus minimale en cas de crise. Terribles tels que celui du Yémen ou la Syrie n'ont pas pu trouver de résolution. Et la communauté internationale est restée paralysée, notamment en raison de blocages des institutions telles que le Conseil de sécurité. Par ailleurs, les persécutions contre des minorités se sont poursuivies. Je pense notamment aux Tibétains, mais aussi aux Ouïghours en Chine. Et puis, d'une manière générale, les défenseurs des droits humains n'ont pas pu faire leur travail sans prendre des risques terribles. La région d'Amérique latine reste la plus dangereuse où il y a le plus de personnes qui sont assassinées en raison de leur militantisme pour les droits humains ou l'environnement par exemple. En Arabie Saoudite, en Égypte et dans tant d'autres pays, les défenseurs des droits humains ont été arrêtés, persécutés. Nasrin Sotoudeh, la célèbre avocate iranienne, n'a toujours pas été libérée de manière définitive. Par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de violations des droits des femmes à travers le monde, notamment des attaques contre le droit à l'avortement, y compris au cœur même de l'Europe, comme en Pologne ou en Hongrie sur la question du genre, en voulant empêcher les personnes trans de changer de genre, par exemple. Dans tous ces pays, les défenseurs des droits humains ont fait preuve d'un courage exemplaire, mais malgré cela, ils font toujours face à des persécutions terribles. Tout d'abord, le droit de manifester continue d'être menacée et notre doctrine de maintien de l'ordre est trop axée sur la répression. Il y a eu un usage excessif de la force dans bien des manifestations au lieu de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. À cela s'ajoute un sentiment d'impunité. C'est pourquoi nous préconisons la mise en place d'un système, un mécanisme indépendant pour pouvoir mener des enquêtes en cas de manquement par les forces de l'ordre. Le gouvernement cherche trop souvent à le nier, mais des discriminations restent systémiques en France. Et c'est pourquoi c'est une première, nous avons décidé de mettre en demeure avec 5 autres ONG l'État français de mettre un terme au contrôle d'identité discriminatoire. La politique migratoire de la France reste également extrêmement préoccupante. Les mauvais traitements se sont poursuivis à l'encontre des migrants, mais aussi la persécution des aidants, des personnes qui sont solidaires avec elles. Le droit d'asile a parfois été bafoué, avec des personnes refoulées à la frontière franco-italienne par exemple. Cette politique migratoire reste absolument indigne d'un pays comme la France, qui devrait faire davantage pour l'accueil des personnes réfugiées et migrantes, notamment pendant la pandémie, où ça s'est encore aggravé, où l'accès au droit d'asile a été encore plus empêché. Contre les discriminations, avec Black Lives Matter, mais aussi contre la corruption, comme au Nigeria ou au Liban, contre des élections volées, comme au Bélarus, pour la démocratie, à Hong Kong et tant d'autres. Nous allons continuer de nous mobiliser, car nous avons aussi obtenu des victoires. Bien des défenseurs des droits humains ou des personnes emprisonnées injustement ont été libérées. Il y a également des bonnes nouvelles du côté des droits des femmes. La fin des mutilations génitales au Soudan, mais aussi l'avortement enfin légalisé en Irlande du Nord, en Argentine ou en Corée du Sud. Les personnes du même sexe pourront enfin se marier au Costa Rica, en Suisse ou encore en Irlande du Nord. Et également du côté des personnes qui aident les migrants et les réfugiés. Il y a des bonnes nouvelles, car par exemple, Martine Landry a été relaxée définitivement, et plus récemment encore, Cédric Héroux. Donc cela avance et nous devons continuer de nous mobiliser tous ensemble pour faire avancer le respect des droits humains. Que nous dit ce rapport 2020-2021 ? Certes, la pandémie a durement impacté les droits humains et d'autres violations ont perduré. Il nous dit aussi la capacité des peuples à se soulever, à se mobiliser et à obtenir des victoires. Il nous dit surtout que cette aspiration à voir les droits humains respectés est décidément universelle.
Voilà donc un résumé du rapport annuel fait par Amnesty France et sa présidente. Donc, de retour en direct, bien sûr, sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International Évreux. Et je vais compléter ce que vient de vous dire Cécile en vous lisant un petit extrait, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop long, on ne vous lira pas tout, mais un petit extrait de la préface de ce rapport annuel, donc je vous rappelle, qui vient de paraître, hein, l'état des droits humains vu par Amnesty 2020-2021. Et donc, un petit extrait de la préface qui a été rédigée par notre nouvelle secrétaire internationale, qui est une Française aussi, et qui s'appelle Agnès Calamard. Donc, voici ce qu'elle écrit en préambule. En 2021, un simple assemblage de molécules a ébranlé le monde. Invisible à l'œil nu, un virus à l'origine très localisée a provoqué une pandémie mondiale avec une rapidité foudroyante. Quelles que soient les conclusions des recherches sur sa genèse exacte, le coronavirus ou Covid-19 et ses très nombreuses victimes résultent en partie de l'accroissement des inégalités entre États et au sein de chaque pays qui caractérise notre monde. La situation a été fortement aggravée par les politiques d'austérité appliquées depuis la crise financière qui ont fragilisé les infrastructures et systèmes de santé publique et par une architecture internationale affaiblie dans sa forme, son fonctionnement et sa gouvernance. Cette grave détérioration de la situation résulte également, j'ai perdu ma ligne.
On peut pas t'aider, on est trop loin, Didier.
Alors je reprends.
Oui.
La situation a été fortement aggravée par les politiques d'austérité appliquées depuis la crise financière, qui ont fragilisé les infrastructures et systèmes de santé publique, et par une architecture internationale affaiblie dans sa forme, son fonctionnement et sa gouvernance. Cette grave détérioration de la situation résulte également de la pression exercée par des dirigeants politiques adeptes de la diabolisation et de l'exclusion, champions de conceptions archaïques de la souveraineté et prompts à se faire les avocats d'approches rejetant les apports de la science, niant les faits et réfutant les normes universelles. L'époque que nous vivons est exceptionnelle, mais sommes-nous à la hauteur du défi qui se présente à nous ? Une époque exceptionnelle appelle une réponse exceptionnelle et exige un leadership exceptionnel. Or, en 2020, ce leadership exceptionnel n'est pas venu du pouvoir, ni des privilèges, ni des profits. Il est venu des infirmières et infirmiers, des médecins et de l'ensemble du personnel soignant, en première ligne des services mobilisés pour sauver des vies. Il est venu de celles et ceux qui se sont occupés des personnes âgées. Il est venu des techniciennes, des techniciens, des chercheurs et des chercheuses qui ont effectué des millions de tests et d'essais dans la quête effrénée d'un vaccin contre la maladie. Il est venu de celles et ceux qui le plus souvent cantonnés en tout au bas de l'échelle des revenus ont travaillé pour nous nourrir, ont nettoyé nos rues, se sont occupés des corps de centaines de milliers de personnes décédées, ont veillé à ce que nos services les plus essentiels fonctionnent, ont patrouillé dans nos agglomérations ou assuré la bonne marche des transports publics qui roulaient encore. En 2020, alors que les activités d'une grande partie de l'humanité étaient suspendues, ces personnes ont fait face et se sont distinguées. Tout comme celles et ceux qui sont restés chez eux par solidarité, à condition d'avoir un chez-soi, qui ont respecté une distanciation physique émotionnellement difficile à supporter et qui se sont occupés de leur entourage. Mais derrière tant d'héroïsme, la pandémie a mis à nu les conséquences dévastatrices de l'abus de pouvoir sur des plans aussi bien structurels qu'historiques. La crise du Covid-19 ne définit peut-être pas qui nous sommes, mais elle a certainement mis en évidence ce que nous ne devons pas être. Et un peu plus loin, elle continue. Nous avons parfois entrevu la manifestation d'une capacité exceptionnelle à mener une action politique venant souvent de femmes avec des prises de décisions audacieuses et difficiles visant à protéger les personnes, soutenir les systèmes de santé, faire les investissements nécessaires pour trouver immédiatement des solutions dans une urgence sans précédent et apporter le soutien économique dont avaient désespérément besoin celles et ceux qui avaient vu disparaître leurs moyens de subsistance. Mais la pandémie a également servi de révélateur, mettant en évidence la médiocrité, les mensonges, l'égoïsme et la fourberie des dirigeants politiques de la planète. Les pays les plus riches ont mis en place un quasi-monopole sur l'approvisionnement mondial en vaccins, laissant les pays les plus démunis se débattre avec les pires conséquences de la crise en matière de santé et de droits humains, et donc affronter les perturbations économiques et sociales les plus durables. Et alors que les morts se comptent par millions et que des millions d'autres personnes perdent leurs moyens de subsistance, que faut-il penser du fait que les revenus des milliardaires les plus riches de la planète ont explosé, que les profits des géants des nouvelles technologies ne cessent d'augmenter, que les cours des actions sont à la hausse sur toutes les places financières? Que proposent ces puissants pour assumer leur juste part de l'impact de la pandémie, pour faire en sorte que la reprise soit durable et équitable? En ce début d'année 2021, leur silence est assourdissant. Comment se fait-il qu'une fois de plus, en l'occurrence sous les coups d'une pandémie, le fonctionnement de l'économie mondiale soit tel que ce sont celles et ceux qui ont le moins qui donnent le plus? Les demi-mesures dérisoires qui ont été prises, comme la décision du G20 de suspendre le paiement de la dette pour 77 pays en 2020, tout en exigeant que les sommes dues soient remboursées avec des intérêts plus tard, menaçait de perpétuer les inégalités structurelles et les difficultés économiques après la crise, avec toutes les conséquences dramatiques qu'une telle situation risque d'avoir pour les droits économiques et sociaux de millions de personnes. La pandémie a éclairé d'une lumière crue l'inaptitude de notre monde à collaborer efficacement et équitablement lorsque survient un événement peu probable, mais aux répercussions majeures à l'échelle planétaire. Il est par conséquent difficile de ne pas éprouver un sentiment de péril imminent lorsque l'on réfléchit à une crise d'une toute autre ampleur qui nous attend, pour laquelle il n'y aura pas de vaccin, la crise climatique. Des millions de personnes ont souffert en 2020 des effets désastreux d'événements climatiques extrêmes. De nombreuses catastrophes, exacerbées par le réchauffement planétaire et l'instabilité climatique, ont frappé de plein fouet des millions d'êtres humains, affectant entre autres leur droit à la vie, à la nourriture, à la santé, au logement, à l'eau et à l'assainissement. L'Afrique subsaharienne et l'Inde ont connu des sécheresses prolongées, tandis que l'Afrique australe, l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes et l'Océanie voyaient se succéder des tempêtes tropicales dévastatrices et que l'Australie et la Californie étaient en proie à de terribles incendies. Face à cela, quelle réponse ? L'engagement pris au titre de l'accord de Paris par les pays développés d'apporter à l'horizon 2020 aux pays en développement une aide financière climatique d'au moins 100 milliards de dollars n'a tout simplement pas été tenu. Et les États ne se sont manifestement pas engagés sur d'autres niveaux d'action suffisants pour atteindre l'objectif d'une réduction de moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un changement de cap radical s'impose si nous voulons éviter un réchauffement planétaire de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, avec les conséquences irréversibles que cela entraînerait. Voilà. Et puis je vais vous lire un dernier paragraphe. 2020, 366 jours marqués par l'égoïsme meurtrier, la lâcheté, la médiocrité et des échecs aux ramifications toxiques entre xénophobie et haine raciste. 366 jours qui ont montré à quel point la violence héritée de siècles de racisme, de patriarcat et d'inégalité demeurait inchangée et d'actualité. Mais aussi 366 jours qui nous ont accordé de riches sources d'inspiration, nous donnant de la force et de la résilience en tant que famille humaine, des jours marqués par la détermination de femmes et d'hommes à défendre leurs droits et à lutter pour une reprise juste et équitable après la pandémie. Une époque exceptionnelle appelle une réponse exceptionnelle et exige un leadership exceptionnel. De quoi avions-nous donc besoin pour créer un monde plus résilient face aux gigantesques défis qui nous attendent ? Et pour conclure, là je vais passer quelques pages, pour conclure simplement les deux dernières phrases de son introduction. Encore une fois, vous trouverez ça dans le rapport annuel d'Amnesty. Alors voilà ce qu'elle dit. L'année 2020 nous a une fois de plus rappeler un certain nombre de leçons dont nous refusons de tenir compte pour le plus grand péril des générations à venir. L'interdépendance de la famille humaine, l'universalité de ce que nous, les peuples, exigeons de la part de la gouvernance en temps de crise, et le fait que notre avenir est indissociable de celui que nous façonnons pour notre planète. Elle nous a rappelé, en d'autres termes, l'essence même des droits humains. Aurons-nous l'audace de voir ce qu'il convient de faire et le courage de passer à l'action à l'échelle et au rythme nécessaire ? La question est posée. Voilà. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez prenant, quoi, et qui résume bien ce pourquoi on est là, ce pourquoi on anime ces émissions de radio, ce pourquoi vous nous écoutez. Et encore une fois, on ne peut que vous encourager à venir agir avec nous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et il y a aussi des urgences. Inutile d'y revenir, il y a aussi des urgences sur lesquelles on n'a plus le temps de tergiverser, dirons-nous. Encore une fois, je vous renvoie à ce rapport, quitte à insister lourdement, je vous renvoie à ce rapport téléchargeable sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, et puis on sera amené à reparler dans les prochaines émissions de différents contenus de ce rapport, qui est quand même la grosse publication des droits humains d'Amnesty International, et même la grosse publication mondiale sur le sujet. Voilà. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Je suis une graine d'anarchiste, mais oui, une bobo gauchiste, une féministe hystérique. Y a pas que mes poils qui piquent. Bien sûr, je desserre ma cause. Mon Dieu, mais comment elle ose? Non, mais c'est quoi cette allure? Viens, on l'aura à l'usure. Arrête de parler trop fort, ça risque de te porter tort. Et puis c'est pas ça le problème, les féministes, toutes les mêmes. Arrête de jouer les victimes, l'important c'est ceux qui briment. Mais surtout la vie des gens. Mais pourquoi tu perds ton temps? Mais parce que je suis libre, libre de mon corps, à jamais à la mort. Je suis libre, je suis libre, libre de ma vie. Si ça me plaît pas, fais chier avec ton viol, arrête d'en parler, t'es folle. Tous les mecs sont pas comme ça.
t'es agressif, crois-moi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore?
Pourquoi t'es jamais d'accord?
Ferme donc un peu ta grande gueule, sinon tu vas finir seule.
Et puis qu'est-ce qu'elle a la grosse?
Nous on aime que les sacs d'os.
Arrête de dire qu'on te fait chier, nous on pense à ta santé.
Putain, mais qu'est-ce que t'es chiante? L'important c'est d'être pendante.
À quoi ça te sert de penser? Tu préfères pas la télé?
Non, parce que je suis libre, libre de mon corps, à jamais à la mort. Je suis libre, je suis libre, libre de ma vie. Si ça plaît pas, tant pis, j'suis pas là pour faire joli.
Je m'appelle irrévérence, je m'appelle impertinence, je m'appelle indépendance, je suis désobéissance, je suis puissance, résilience, je suis émancipation, je m'appelle libération, je m'appelle fous-moi la paix, regarde ailleurs s'il te plaît, je m'appelle me parle pas, je suis pas à dispo comme ça, je m'appelle passe ton chemin, je m'appelle carton venin, je suis détermination, je m'appelle insoumission et je...
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'est Juliane qui va vous présenter le morceau qu'on vient de passer tout de suite.
Oui, alors c'était Mathilde, autrice, compositrice, interprète féministe, et avec sa chanson Libre. Bon, suite au raté de la.
Voilà, il paraît que la dernière fois, la musique avait du mal
il
à passer.
J'ai eu un petit souci technique pour passer la musique. Ce qui m'avait valu bien des moqueries amicales, d'ailleurs, mais bon. Mais on a trouvé la solution. Enfin, on m'a aidé à trouver la solution. Pourquoi ça n'avait pas marché et maintenant, ça marche. Voilà.
Voilà.
Mais je crois que Juliane avait d'autres choses à vous dire. choses à vous dire que de parler de la chanson.
Oui, donc on a parlé des régressions des droits humains en général en 2020, mais moi je vais vous parler un peu plus précisément des droits des femmes. Amnesty a pu constater que justement dans le monde entier, une hausse des violences fondées sur le sexe et le genre avait donc augmenté. Un phénomène amplifié par les mesures de lutte contre le Covid-19. Donc des femmes confinées avec leurs agresseurs. Cette situation a pu être accentuée par les mesures de lutte contre le Covid là encore. Dans le monde entier, des associations ont signalé une nette augmentation de la violence domestique et de la violence fondée sur le sexe et le genre. 30% de violences supplémentaires selon le lobby européen des femmes, un think tank qui justement interroge ces questions du sexe. Nombre de femmes et de personnes LGBTI se sont retrouvées avec leurs agresseurs, là encore, pendant le confinement. Dans certains pays ou régions, les services d'interruption de grossesse ont également été considérés comme non essentiels, ce qui affectait de façon disproportionnée les populations marginalisées. L'avortement reste une infraction pénale dans la plupart des pays du continent américain. En outre, en Pologne, une décision judiciaire a davantage encore restreint les conditions d'accès à cette intervention, que je détaillerai un peu plus tard. Donc finalement, un pas en avant et deux pas en arrière. Individuellement, certains États ont cherché à entamer le consensus existant en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes et les genres, multipliant les initiatives visant à faire disparaître les droits sexuels et reproductifs, des engagements internationaux pris de longue date. Et c'est le cas le 22 mars dernier, où la Turquie, via un simple décret présidentiel, a décidé de se retirer d'un traité international, la Convention d'Istanbul, qui est le premier traité qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Europe. Selon le président Erdogan, parce que je vais quand même vous donner l'argumentaire pour, qui justifie ce retrait, ce texte est utilisé pour normaliser l'homosexualité, ce qu'il considère contraire aux valeurs sociales et familiales turques. C'est marrant, souvent, quand on revient sur les droits des femmes, c'est souvent l'Église, enfin, la religion en général, et la famille qui est mise en avant. Donc une déclaration dangereuse, elle témoigne de l'acharnement du gouvernement turc contre les personnes LGBTI, mais aussi de son mépris pour les droits des femmes et les victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors je vais revenir un peu sur cet outil important et complet qu'est la Convention d'Istanbul, qui a pour but de lutter contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles envers les femmes et les violences domestiques. Oui, donc après c'est une application régionale d'une autre convention signée par l'ONU, que je ne vais pas détailler ici, qui elle en l'occurrence vise toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et la Convention d'Istanbul, elle, c'est contre les violences qui sont évidemment des violences à l'encontre des femmes qui sont largement impunies. À titre d'exemple, l'OMS estime qu'une femme sur trois indique avoir été exposée à des violences physiques et sexuelles dans sa vie. Et en Turquie, 300 femmes ont été tuées en 2020. Et ce chiffre augmente d'année en année. Alors déjà qu'en France, les chiffres des féminicides est vraiment impressionnant. Voilà, je vous laisse imaginer en Turquie. En 2011, le Conseil de l'Europe adopte la Convention d'Istanbul, qui crée un cadre juridique complet pour prévenir, mais aussi lutter contre les violences. Alors, vous avez seulement deux États parmi le Conseil de l'Europe qui n'ont pas signé la Convention. Il s'agit de l'Azerbaïdjan et de la Russie. Donc, les seuls membres du Conseil d'Europe qui ne l'ont pas signé parmi les 45. D'autres l'ont signé, mais ne l'ont pas ratifié. Alors, parmi ceux qui l'ont signé et ratifié, vous avez l'Union européenne, mais vous avez quand même 11 États qui ne l'ont pas ratifié, qui font partie du Conseil de l'Europe. Ce traité est juridiquement contraignant, hein, c'est un traité international, divisé en plusieurs articles, plusieurs chapitres. Cette convention définit et criminalise les violences qui sont faites à l'égard des femmes, que ce soit, à titre d'exemple, les violences psychologiques, le harcèlement sexuel, les violences physiques, sexuelles, le viol, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, l'avortement et la stérilisation forcée, les crimes dits « d'honneur », entre guillemets. Donc le but, c'est d'assurer une protection et un accompagnement de toutes les victimes de violences, sans distinction. Parce qu'au sein de la Convention, vous retrouvez aussi une interdiction des discriminations qui sont fondées sur de nombreux critères, c'est-à-dire les discriminations qui concernent le sexe, la race, la couleur, la religion, l'orientation sexuelle, le statut marital, etc. Ces violences et la lutte contre ces violences et la prévention de ces violences concernent... est applicable en temps de paix comme en temps de guerre, et cette convention définit justement les violences. Donc elle met des mots, elle offre des définitions pour ensuite réprimer ces délits et ces crimes. Bon, et pour finir, au-delà des débats autour du retrait, parmi les autres États européens notamment, qui alimentent la haine, la stigmatisation, les stéréotypes, les discours toxiques tenus par des personnalités politiques, ce qui a nécessairement un impact sur le suivi des violences, l'enregistrement des plaintes, etc. On a un autre aspect qui est inquiétant en Europe, le désengagement grandissant de la Pologne pour les droits des femmes. Je ne vous parle pas juste de ce pays parce que je suis d'origine polonaise. Pays qui dispose d'une des législations les plus restrictives en Europe en ce qui concerne le droit à l'avortement. Et dernière actualité, le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais jugeait l'avortement non conforme à la Constitution, même en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable, potentiellement mortelle pour le fœtus, alors que l'avortement était auparavant autorisé pour ce motif. Donc ça restreint là encore un peu plus l'accès à l'avortement pour les femmes. Ces reculs ont pour objectif final d'interdire l'avortement. Il faut savoir que la Pologne, là encore, est l'un des seuls pays membres de l'Union qui n'autorise pas l'avortement à la demande d'une femme pour des raisons socio-économiques au sens large. L'avortement n'est autorisé qu'en cas de danger pour la vie de la mère, la vie des femmes, donc un risque réel, substantiel, ou en cas de viol. Bon, encore faut-il que les victimes parviennent à le prouver. Et là encore, dans la pratique, même dans ces situations, les femmes rencontrent de multiples obstacles pour accéder aux soins. Et dernière chose, en ce qui concerne le viol, il n'y a pas de définition internationale de ce crime. Mais vous avez la version finale du projet de texte qui définit les éléments constitutifs des crimes énoncés par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, donc le statut qui prévoit les crimes dont la Cour pénale internationale peut connaître, et qui donne du viol la définition suivante. L'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle. Là, on pense à une jurisprudence de la France, justement, assez récente, sur la question « Était-ce une pénétration suffisante pour être qualifiée de viol ou pas ?» Donc, ça va quand même assez loin. Donc là, on ne se pose pas la question, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie d'autre partie du corps. Et petit 2, l'acte a été commis par la force, ou en usant à l'égard de la dite personne ou d'une tierce personne de la menace de la force ou de la coercition, par exemple, menace de violence, contrainte, détention, pression psychologique, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de la dite personne de donner son libre consentement. Alors, à ce sujet, justement, le Danemark est allé plus loin récemment, là encore, bon, suite à des années de mobilisation et de lutte, hein, ça arrive pas comme ça, le 17 décembre dernier, le Parlement danois adoptait une proposition de loi qui, une fois promulguée, reconnaîtrait qu'un rapport sexuel non consenti est un viol. Alors là, ça paraît évident, mais ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, en France, si vous ne pouvez pas qu'il y a eu violence, contrainte, menace, ça ne sera pas qualifié de viol nécessairement. Donc, alors qu'on sait que l'hypothèse fréquente selon laquelle une victime donne son consentement parce qu'elle n'a pas résisté physiquement est erronée. Donc on parle du phénomène de sidération traumatique. On en parlera un peu plus lors d'une prochaine émission avec Tiffany Day, voilà, qui nous parlera de ces phénomènes de mémoire traumatique et de sidération traumatique. Donc, elle a été reconnue par les experts et les expertes. Et là, je vous renvoie aux travaux de Muriel Salmona, qui est une psychiatre et psychotraumatologue qui a étudié ces questions et qui donne une... Donc c'est une réponse physiologique et psychologique très courante lors de viols et d'agressions sexuelles. Et je finirai par un exemple assez parlant. J'avais le souvenir justement d'une femme, alors je ne sais plus si c'était une championne de boxe ou un autre sport de combat, un autre art martial, donc qui physiquement voilà, est tout à fait en capacité de se défendre face à son agresseur, mais sidérée de la situation et de la violence de la situation du viol, elle n'a tout simplement pas réagi. Alors que physiquement, elle aurait pu démonter le mec, quoi. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la sidération traumatique.
Ok, ben, ouais, merci Julien. Je sais qu'on avait déjà parlé, et ça m'a remis ça en tête, effectivement, de ce que tu disais, la définition du viol, effectivement, qui a été adoptée par le Danemark. Et nous, au niveau d'Amnesty, effectivement, on lutte pour que cette définition-là soit universalisée le plus possible, qui définit effectivement le viol comme un acte sexuel imposé à l'autre. Donc effectivement, l'absence de consentement suffit à définir le viol, quelle que soit, entre guillemets, la pratique qui a été l'acte en lui-même, quelle que soit la forme qu'il ait pris, voilà, c'est ce que je voulais dire, quelle que soit la forme qu'il ait pris, c'est l'absence de consentement qui définit le viol. Ce qui, moi, me paraît effectivement quelque chose d'évident.
Sachant que même récemment, et dans certains pays, c'est même pas le cas, le viol entre époux, le viol conjugal n'est pas nécessairement reconnu. Donc, on considère que si vous êtes en couple avec quelqu'un, il n'y a pas de viol, ce n'est pas possible. Donc, là encore, on marche sur la tête, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, on continuera à lutter pour ça, mais bon...
Un petit mot pour la Turquie aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très compliqué et c'est vraiment très inquiétant quand on voit l'arrêt de... que la Turquie ne continue pas à adhérer au processus de... Redonne-moi le nom.
La convention d'Istanbul, hein, parce qu'elle a été signée à Istanbul.
Et ben juste une petite image qui me vient, c'est le... On va dire le canapé guette ou le sofa guette avec notre
Ursula von der Leyen,
commissaire européenne qui s'est retrouvée vraiment... voilà, bon. Je trouve que ça va avec l'autre, ça va avec la décision d'arrêter, mais Les pauvres Turcs.
Ben c'est parlant de la part du président machin chose.
Les pauvres femmes turques, franchement.
Erdogan, Erdogan, les femmes sont relayées à une place
subalterne.
Subalterne, effectivement, sur le canapé, loin des hommes et des décisions politiques.
Voilà, et l'homme a prédominance sur la femme, c'est absolument évident.
C'est normal, c'est biologique.
Ça, c'est toi qu'elle dit, mais bon, on n'est pas trop à fait.
Et je crois qu'il y avait aussi Edith qui voulait vous parler d'autres personnes qui n'ont pas accès non plus du tout au pouvoir, ni même au respect de leurs droits. Je crois que tu voulais nous parler des Ouïghours en Chine.
Bah, Didier, la dernière émission, tu avais eu envie d'en parler.
Oui, mais on avait
manqué de
temps.
Vous avez eu un manque de temps. Donc c'est vrai que moi j'ai repris parce que c'est un... tout ce qui est au niveau de l'Asie, et effectivement les Ouïghours, j'en ai parlé plusieurs fois, et quand je vois la date à peu près où ces personnes ont été placées en détention, 2017, et je me dis, mais Amnesty l'a dénoncé vraiment à ce moment-là, voire même avant, parce que j'ai vraiment souvenir d'avoir parlé à la radio, essayé de dire, mais il se passe des choses. Bon, là, maintenant, il y a, on va dire, un consensus un petit peu mondial pour le dénoncer. Il y a eu quelques politiques qui ont osé dire que ça se passait pas bien. La Chine a montré son désaccord. Et pour vous dire vraiment ce qui passe, bon, je vais vous souhaiter vous lire les témoignages de Ouïghours qui sont en dehors de la Chine, et le sort qui est actuellement réservé par la Chine à ces enfants de ces familles-là. Et c'est vraiment assez terrible. Alors, je vais lire les témoignages, simplement, sans commentaire, parce que je trouve que ça suffit vraiment. Donc, c'est Amnesty qui a récupéré les témoignages auprès de 6 familles ouïghours qui vivent actuellement en exil en Australie, au Canada, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Ces familles ont quitté la Chine en 2017 ou avant l'intensification de la répression contre les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes. Depuis, elles sont totalement coupées de leurs enfants, âgés pour certains de 5 ans ou moins. Leur témoignage poignant donne un aperçu des souffrances endurées par ces familles Ouïghours. Alors le témoignage, la première personne, c'est Mirikan Kader et Ablikim Mentinid, qui ont fait le Xinjiang pour l'Italie en 2016 après avoir été harcelés par la police et avoir subi des pressions visant à les contraindre à restituer leur passeport. Ils ont confié temporairement leurs 4 enfants à leurs grands-parents. Mais peu de temps après, la grand-mère a été emmenée dans un camp, le grand-père interrogé par la police. Les autres proches de cette famille n'osaient pas s'occuper de leurs enfants après ce qui était arrivé aux parents. Ils avaient peur d'être envoyés dans des camps aussi. L'aîné a été envoyé dans un pensionnat et les 3 plus jeunes dans un camp pour orphelins. Miriban et Ablikim n'ont pas pu rentrer en contact avec eux depuis l'Italie, mais en novembre 2019, ils ont obtenu du gouvernement italien l'autorisation de faire venir leurs enfants. Les 4 enfants, âgés de 12 à 16 ans, ont voyagé seuls à travers la Chine pour rejoindre le consulat italien à Shanghai. Mais ils ont été arrêtés par la police et renvoyés à l'orphelinat et au pensionnat. Maintenant, mes enfants sont entre les mains des autorités chinoises et je ne suis pas sûre de les revoir un jour, a dit Miriban. Le plus douloureux, c'est que pour mes enfants, c'est comme si leurs parents n'existaient plus, comme si nous étions décédés et qu'ils étaient orphelins. Un autre témoignage. Dinur, originaire de Kasgar, qui vit actuellement avec sa fille âgée de 11 ans au Canada, où elle apprend l'anglais. Elle a quitté la Chine avec sa fille en 2016 pour la Turquie, car sa famille avait souvent fait l'objet de harcèlement de la part des policiers locaux, qui ont fouillé sa maison à plusieurs reprises et lui ont ordonné d'enlever son hijab. Elle a dû attendre un an pour que les autorités chinoises délivrent un passeport à ses 2 filles, celle de 11 ans et une autre âgé de 9 ans. Mais la police a refusé sa demande de passeport pour son fils âgé de 7 ans. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, les policiers lui ont répondu qu'ils pensaient qu'elle ne reviendrait pas en Chine s'il donnait un passeport à son fils. Les allergies dont souffre sa fille cadette l'empêchant de voyager à l'étranger, Dinur a dû la confier à ses parents, de même que son fils. Et quelques mois après avoir quitté la Chine, elle a appris par sa famille que la police avait confisqué le passeport de sa fille cadette. Début 2017, Dinur a fait face à l'un des plus grands dilemmes de son existence. Tu dois revenir, lui a dit sa sœur au téléphone. Leur père, qui s'occupait de des deux enfants, était alors interrogé pendant des heures chaque semaine. Lorsque Dilnur a demandé pourquoi, sa sœur lui a répondu la gorge serrée. « Parce que le gouvernement veut que tu reviennes. La sécurité de notre famille dépend de toi. Si tu ne reviens pas immédiatement, toute notre famille, et peut-être aussi nos parents plus éloignés, seront punis et emmenés dans des camps. » Au cours des quelques minutes qu'a duré cet appel, le monde de Dilnur a été anéanti. La pensée même que la sécurité des personnes qu'elle aimait reposait entièrement sur sa décision de rentrer en Chine ou non, l'en laissait complètement désemparée, désespérée et angoissée, car elle savait qu'elle serait séparée de ses enfants et emmenée immédiatement dans un camp si elle retournait dans son pays. Dilnur n'a pas pu dormir pendant des semaines, tandis qu'elle luttait pour savoir quoi faire. À ce moment-là, elle a reçu un message de son père par le biais d'une connaissance commune, disant qu'elle devait terminer ses études avant tout. Et un autre message après, Dilnur ne doit jamais revenir. Elle pense que son père savait ce qui arriverait si elle rentrait et qu'il a donc décidé de la protéger de tout danger. De plus, elle s'était convaincue que sa famille et ses proches étaient harcelés uniquement en raison de leur identité ouïghour et que les autorités ne les laisseraient pas tranquilles si elle revenait. Alors, depuis avril 2017, Dilnur n'a pu avoir aucun contact avec les membres de sa famille et elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses deux enfants au Xichang. Elle a tout essayé, sans succès. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver mes enfants, mais j'ai échoué. À un moment, elle faisait le même cauchemar pendant toute la semaine. Il la réclamait et un professeur leur disait « Votre mère vous a laissé ». Dilnur prévoit de demander l'aide du gouvernement canadien pour faire venir ses enfants une fois qu'on lui aura accordé la résidence permanente. Quand elle vivait en Turquie, elle a écrit plusieurs lettres au ministre turc ainsi qu'au président pour obtenir leur soutien. Elle n'a jamais reçu de réponse. Lors de son entretien avec Amnesty International, elle a appelé le monde à agir en disant « Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à mes enfants et à ma famille. Comment cela a-t-il pu se produire? S'il vous plaît, faites que ce qui est en votre pouvoir pour nous aider à survivre à cette situation. » J'aimerais demander à tous de ne pas oublier votre humanité, de nous défendre, d'être à nos côtés et de ne pas permettre que cette tragédie se reproduise pour nos enfants. Voilà, j'ai encore d'autres témoignages, je crois que je vais m'arrêter là
pour
ce soir. Mais c'est vraiment très très prenant et on les trouve sur le site d'Amnesty France ou d'Amnesty Belgique. Et c'est... Alors quand même, pour revenir un peu à ce qui se passe actuellement... au niveau des relations mondiales, on va dire, c'est qu'il y a quand même des petits soubresauts pour essayer de toucher la Chine, puisque là, la Chine, le sort des Ouïghours, elle ne bouge pas et elle ne bougera pas. Ce sont des plaintes qui sont faites au niveau de grandes entreprises d'habillement et de fabricants de chaussures ou revendeurs de chaussures. Donc, il y a Nike, pour qui il y a une plainte qui a été déposée. Il y a Zara. Il y a des chaussures... je cherche le nom. Je pense que c'est des baskets... je ne sais plus tout à fait le nom. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc là, en France, il y a des plaintes qui sont faites par l'éthique sur l'étiquette, Sherpa et puis l'Institut Ouïghour d'Europe. Donc, je pense qu'on peut aussi tous, tout un chacun, réfléchir à... la capacité qu'on a en achetant nos objets. Parce que j'ai appris effectivement que dans le Xichang, c'est à peu près un grand pourcentage de coton. Je cherche pour ne pas vous dire de bêtises. C'est représente le cinquième de la production mondiale de coton et fournit de nombreux géants de l'habillement. Donc là, nous, c'est aussi à nous de faire attention d'où viennent les produits. Et sachant que les Ouïghours sont utilisés en travail forcé dans les champs, sont séparés de leurs enfants, que les enfants sont séparés des parents, qu'il y a du bourrage de crâne au niveau des parents, des enfants dans les structures qui sont censées être des structures d'apprentissage, mais qui sont absolument des camps. On en a compter à peu près 380, et que la région du Xichang est absolument bloquée, qu'il n'y peut y avoir aucune enquête. Donc, si on peut trouver ce moyen-là pour faire réfléchir la Chine au niveau des sous, moi, je pense que c'est pas mal.
C'est clair. Et c'est clair qu'en tant que consommateur, on a sa marge de manœuvre pour influencer, effectivement, en boycottant les marques. On peut les rappeler, hein, Zara, Nike.
On trouve souvent les mêmes, voilà. Hein, j'ai l'impression.
On retrouve souvent les mêmes, bien sûr.
Il n'y a pas d'évolution. Le sport, c'est ce qui est cher. Donc, je ne connais pas tellement. Mais bon, effectivement, ce sont des grosses structures. Et vous pouvez vous renseigner, vous cherchez sur Internet, vous allez voir. Donc là, c'est très récent. C'est le vendredi 9 avril qu'il y a eu une plainte en France.
Voilà.
Et il y a d'autres pays qui aussi bloquent. Hein, et le Canada, l'Angleterre qui s'est pas mal bougée quand même en dénonçant le sort des Ouïghours aussi. Donc je crois que la BBC, elle n'est pas tellement utilisée. Enfin, tout de suite, la Chine n'aime pas trop la BBC, on va dire ça. Voilà.
Puis je rappelle aussi, quand on parle du pouvoir de consommateur en faisant ses courses et en achetant ses vêtements et autres, il y a aussi un moyen, effectivement, c'est de se repérer aussi. On en trouve de plus en plus d'étiquettes où c'est marqué, effectivement, commerce équitable ou
voilà,
des choses comme ça.
Voilà, l'étiquette sur l'étiquette.
Voilà. Et qui renvoie quand même à des normes de production et des normes de commerce qui sont beaucoup plus respectueuses de ce dont on vous parle à longueur d'émission.
Et on peut aussi, effectivement, faire pression sur les marques qu'on aime bien et qu'on voudrait qu'ils soient un peu plus vigilants sur l'approvisionnement qu'ils ont.
On va s'écouter quelques secondes de musique très rapide parce que l'heure tourne et on se retrouve juste après.
J'avais ton âge et encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvais à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on a un petit peu coupé le morceau, mais bon. Et on va vous passer, il y a Mina qui nous a envoyé sa rubrique culturelle, comme elle le fait quand elle peut pas venir à l'émission, donc on va l'écouter tout de suite.
Une nouvelle rubrique culturelle engagée à distance avec pour titre celui de la chronique de ce mois, pris pour cible. Quand on est pris pour cible, c'est que l'on gêne, que notre pensée dérange jusqu'à notre être lui-même. Dessiné encore de Coco aux éditions Les Arènes BD. Dans sa BD, Coco nous expose le traumatisme suite aux attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. On dit souvent que l'on se noie si on garde la tête sous l'eau. Tout au long de son récit, Coco ne cesse de se battre avec cette vague qui la submerge. Elle nous relate l'après, l'avant, sa détermination de ne pas rester sur une page blanche. Le droit à la liberté. Un biopic maintenant. Nelly Bly dans L'antre de la folie de Virginie Aulagnier et Carole Morel aux éditions Glénat. Ce biopic nous expose la vie de la journaliste Nelly Bly dans les années 1800. Cette jeune journaliste nous emmène dans ses combats où elle dénonce notamment les conditions des femmes de son époque. Pour mettre en plein jour la maltraitance subie par les résidentes d'un établissement dit psychiatrique, Nelly va se faire passer pour folle afin de s'infiltrer et mener ses investigations. Mauvaise herbe de Keigo Shinzo aux éditions Le Lézard Noir. Cette série manga nous emmène dans l'univers d'une adolescente qui fugue pour fuir sa mère. Étant sans ressources, elle se prostitue dans un institut de massage pour subvenir à ses besoins. Lors d'une descente de police dans l'institut, le lieutenant va remarquer cette adolescente qui ressemble à sa fille décédée et va essayer de lui venir en aide. Et voici la fin de la rubrique. La musique de fond, c'était « Chante de là où tu viens » de Liorchouv. Je laisse la suite à mes collègues. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle rubrique engagée.
Merci Mina. Donc voilà, c'était la rubrique culturelle de Mina. Et qu'on vous passe toujours avec plaisir quand elle ne peut pas être avec nous. Donc on touche au terme de l'émission.
Une
bonne nouvelle ou deux, effectivement. Alors, première bonne nouvelle, l'État de Virginie aux États-Unis a annoncé qu'il renonçait à appliquer la peine de mort. Donc, il devient un des 22 États qui ont officiellement aboli la peine de mort aux États-Unis.
Très bien.
Donc, l'abolition de la peine de mort continue à progresser. Autre bonne nouvelle.
En Algérie.
Khaled Drareni, un journaliste dont on a défendu on a demandé la libération lors des derniers 10 jours pour signer au mois de décembre, a été libéré, effectivement, par les autorités algériennes. C'est qu'une demi-victoire parce que pour l'instant, sa libération n'est que provisoire. Il doit repasser en justice, mais il est déjà sorti de prison, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Aussi, je voulais vous dire que sur le site d'Amnesty, ouais. Si vous vous connectez à amnesty.fr, le site français, vous avez une action très urgente à faire pour un réfugié tchétchène qui s'appelle Gadaev. Alors, ça s'écrit G-A-D-A-E-V. Vous tapez Gadaev sur le moteur des recherches sur la première page. Il est sur la première page. Et c'est une action très urgente parce que c'est un défenseur des droits tchétchènes qui avait le statut de réfugié en France et qui a été, malgré ça, et malgré les décisions de justice de la Cour d'asile en France qui lui avait statué positivement sa demande de statut et également des tribunaux administratifs qui avaient annulé deux précédentes mesures d'expulsion vers la Russie qui le frappaient. Malgré tout cela, les autorités françaises l'ont remis dans un avion samedi dernier à destination de la Russie. Et on vient d'apprendre qu'à peine arrivé en Russie, dès le lendemain, il avait disparu et qu'il a probablement été remis entre les mains des autorités tchétchènes où il risque au moins la torture, voire bien pire. Alors on vous demande d'écrire à M. Macron, parce qu'encore une fois l'État français entièrement parjuré, en ne respectant pas la décision de justice et son statut de réfugié en France. On vous demande d'intervenir par mail, par Twitter, par Instagram, enfin il y a plein de possibilités auprès des autorités françaises et directement auprès du secrétariat de l'Élysée pour exiger que donc Gadaev puisse bénéficier d'un retour immédiat en France. Il n'aurait jamais dû quitter le territoire français. Voilà. On va toucher donc à la fin de l'émission. On se retrouve le 27 avril pour notre émission Amnesty, la deuxième émission du mois d'avril. Et on vous conseille aussi de réécouter le podcast de l'émission Fréquence Droits Humains qu'on a pu diffuser la semaine dernière, consacré aux droits des filles et principalement des jeunes filles. Et on a une autre émission Fréquence Droits Humains en préparation, mais on vous en parlera plus la prochaine fois. Voilà. Bonne soirée, bientôt. On laisse l'antenne au laboratoire comme chaque mardi.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de